Bon, pour beaucoup de Québécois, c'est une journée importante de retrouvailles, je dirais, parce que, on le sait, Québec a officialisé les rassemblements extérieurs qui étaient tolérés, là, dans la mesure où ça se passait, bon, un à l'extérieur, deux avec la distance de 2 mètres. Mais la règle est simple, c'est 10-3-2, c'est-à-dire pas plus de 10 personnes à la fois, venant de pas plus de 3 familles, ménages, si vous voulez, et avec la règle du 2 mètres. J'en parle ce matin avec le docteur Richard Massé, qui est conseiller médical stratégique à la direction de la santé publique. Docteur Massé, bonjour.
Bon matin, M. Arcan.
Première question. J'ai vu ailleurs, quand on a décidé de permettre aux gens de tenir ces rassemblements, on y allait encore plus prudemment que ce que le Québec fait. C'est-à-dire qu'on permettait dans un premier temps à 2 familles de se choisir et donc de pouvoir échanger ensemble, mais en interdisant les contacts avec d'autres pour voir s'il y avait, par exemple, contamination, plus facile à localiser, plus facile à contrôler. Pourquoi on n'est pas allé dans une première étape comme celle-là et qu'on a tout de suite permis aux gens 3 familles, puis le lendemain, ça peut être 3 autres familles?
En fait, on s'inspire du concept de bulle, qui est quelque chose qui est utilisé non seulement au Canada, là où vous faites référence, par exemple, au Nouveau-Brunswick,
oui.
C'est le modèle qu'ils ont pris, mais en Europe comme en Belgique ou en Nouvelle-Zélande, il y a plusieurs pays qui utilisent ce concept de bulle-là, puis aux États-Unis aussi, ils commencent à utiliser ça. Il n'y a pas beaucoup de science, mais il y a beaucoup de bonnes pratiques là-dedans. Nous, on a décidé d'aller à 3 parce que les messages qu'on a eus pour ce qui est de ces bulles, de ces milieux-là qu'on veut pouvoir favoriser, c'est que on veut pas que les gens soient pris avec juste un groupe, une famille, que ce soit un enfant ou que ce soit un couple d'amis, puis qu'on soit seulement avec ces personnes-là, que ça va être mieux socialement si les gens ont un plus gros équilibre, une plus grande facilité de voir les gens. Comme je dis, il n'y a pas une recette précise, mais le fait d'en avoir 3, puis on a parlé à plusieurs personnes, des gens qui sont en psychologie, des gens qui sont en psychiatrie, puis ça a un impact social. Nous, on a appelé ça comme une bulle mixte. Et puis, ça répond peut-être plus à ce que nous, on a besoin de faire.
OK. Là, j'ai des questions très précises pour vous, là, compte tenu que les gens essaient d'apprivoiser là, cette nouvelle réalité. La première question qui revient beaucoup, des gens qui habitent, exemple à Montréal, qui vivent dans des condos, appartements, il y a une terrasse. Par contre, les gens doivent passer par l'intérieur pour avoir accès à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est autorisé, là, si on respecte le fameux 2 mètres sur la terrasse en question?
Bien, passer, oui, mais en fait, ce qu'on veut pas, c'est qu'ils restent à l'intérieur.
Non, c'est ça.
On comprend que des fois, c'est impossible de pas passer, mais en même temps, si les gens vont se promener dans les différentes pièces, bien là, c'est sûr qu'ils vont contaminer les pièces. Donc, si c'est juste traversé, on peut comprendre. On peut comprendre que si les gens vont sur la terrasse aussi, les gens vont peut-être avoir besoin d'aller à la salle de bain. Puis, il y a peut-être, à ce moment-là, des précautions que les propriétaires vont devoir faire pour juste être sûr qu'ils vont pas s'infecter auprès de personnes qui seraient en incubation, pas des gens qui viendraient, qui seraient malades, évidemment. Mais des gens qui seraient peut-être soit pré-maladie ou qui seraient pas symptomatiques. On a des gens qui ont pas de symptômes non plus. Donc, juste pour pas prendre aucune chance.
Okay.
Donc, mais on n'encourage vraiment pas les gens à se réunir à l'intérieur parce que là, ça devient beaucoup plus difficile à contrôler.
OK. Vous parlez de la salle de bain. Quelles sont les mesures que quelqu'un doit prendre avant et après?
Bien, essentiellement, c'est d'abord le lavage de mains qui est toujours une chose essentielle, puis une désinfection avec un nettoyant régulier. C'est un virus qui répond bien au savon, fait que si vous les lavez comme il faut avec un désinfectant habituel, puis j'ai pas de nom à vous recommander.
Non.
C'est pas un problème. Puis pensez à toutes les surfaces que les gens peuvent toucher, mais pensez même au plancher. Donc, un bon nettoyage après cette chose-là, c'est correct. Il n'y a pas de problème.
OK. Est-ce que vous recommandez, tout en ayant cette distance de 2 mètres, là, le masque ou pour protéger le visage durant ces soirées-là?
Bien, si vous tenez 2 mètres, puis que, dans le fond, vous êtes capable, dans votre cour ou sur la terrasse, de maintenir cette distance-là, non. Mais si vous vous retrouvez dans des circonstances où est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, là, vous le disiez tantôt, là, traverser dans un corridor étroit, puis que là, à ce moment-là, il n'y a vraiment pas possible, bien, dans les zones où est-ce qu'on a ces contacts-là, à moins de 2 mètres, bien, là, on conseille aux gens de porter un couvre-visage ou un masque artisanal, si vous voulez, juste pour éviter, pour protéger les autres. Hein. Ça fait partie de l'étiquette respiratoire.
Une question qui va vous paraître peut-être bizarre, là, parce que les gens me disent, ben là, quand on se lave les mains, par exemple, quand on arrive de l'extérieur, on prend du savon, puis c'est de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Dans le cas de l'extérieur, comme on a des gens qui sont là, qui veulent se laver les mains, on peut-tu prendre là, bêtement le boyau avec un peu de savon à l'eau froide, puis ça fait le même effet?
Bien sûr, c'est le savon, dans le fond, qui est la chose la plus efficace. Ça détruit la membrane des virus, puis c'est efficace.
OK. Est-ce que vous recommandez aux gens d'apporter leur nourriture pour une activité comme ça extérieure, là, plutôt que de laisser à une personne le soin de préparer un repas, d'avoir de la vaisselle jetable, d'avoir une table, je sais pas, portative pour s'assurer là, qu'on n'est pas tous au même endroit? Ce genre, là, si on veut, d'indication.
Ben, on va pas jusqu'à recommander ça. Ceci dit, c'est sûr qu'on veut pas que quelqu'un qui est malade prépare les aliments. Donc, s'ils emmènent les aliments préparés puis que quelqu'un est malade, il peut effectivement contaminer. Mais c'est plutôt le linge, les tissus, les surfaces qui sont des bons transmetteurs. Mais si quelqu'un toussait dans une assiette, il pourrait la contaminer, c'est certain, là. Donc, on recommande pas nécessairement ça, mais ça pourrait faire partie des précautions que les gens prendraient. Mais c'est pas dans les choses qu'on recommande d'habitude. Là.
OK. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants là, de 4-5 ans? On reçoit le frère, la belle-sœur, on a des enfants du même âge, il y en a 4 au total. Ça ne sera pas facile de leur faire comprendre à cet âge-là de garder la distance. Ils vont courir, ils vont jouer. C'est-tu correct?
Oui, ben on peut s'attendre que les enfants vont jouer ensemble. En même temps, on peut leur demander de faire attention. Moi, j'ai 2 petits-enfants, un de 7 ans, puis une petite fille de 9 ans. Puis j'ai été impressionné de voir à quel point est-ce qu'ils sont capables d'apprendre. Même, ils sont venus dans l'entrée de garage. Pas pour, ils sont pas rentrés dans la maison du tout. Ils sont venus dans l'entrée de garage juste pour nous dire bonjour. On est resté à 2 mètres, puis une fois un câlin virtuel. Fait que il y a moyen de dire aux enfants qu'il y a moyen de s'amuser. Évidemment, ils vont partager les mêmes ballons. Ils vont, tu sais, mais que à ce moment-là, on fait attention pour pas nécessairement s'embrasser, de se prendre dans les bras directement les uns les autres. Il y a moyen d'expliquer aux enfants ces choses-là, mais on pourra jamais empêcher les enfants complètement de se toucher. On peut pas faire ça. Mais c'est ça le concept de bulle. Le concept de bulle, c'est que on apprivoise des gens qui sont près de nous, qu'on connaît, qu'on sait qu'ils sont pas malades, puis que si jamais ils sont malades, on sait qu'ils vont nous le dire, ils vont nous informer. Puis ils font partie de l'écologie, de l'écologie du groupe, si vous voulez. Ça fait qu'on développe progressivement. Ce qu'on veut pas, parce que des fois, ça peut paraître très rigide, ce qu'on veut pas, c'est de se retrouver avec des groupes de 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. On a eu des expériences assez douloureuses, malheureusement, ici au Québec, où des gens sont venus pour des mariages, pour des enterrements. Et puis là, bien, on a eu des contaminations massives. Mais là, on parle de gros groupes. Ce qu'on veut pas, c'est les abus. C'est les gens qui vont se retrouver dans des groupes avec une grande proximité. Ils vont prendre de l'alcool, puis un moment donné, ils vont plus faire attention à rien. Et puis là, ça devient vraiment problématique.
OK. Dr. Massé, puisque vous êtes là, il y a beaucoup de questions. Je sais que M. Legault a dit hier, on regarde des scénarios, par exemple, pour les campings, pour les marinas. Je sais qu'on veut y aller graduellement, mais je vais prendre juste l'exemple des campings. Est-ce qu'il y a un problème particulier à permettre aux gens d'aller préparer leur installation pour l'été? Parce que ça touche beaucoup de monde. Est-ce que c'est une question de déplacement entre les régions? C'est quoi le problème avec les campings?
Bien, les campings, la difficulté, c'est les facilités pour le camping. C'est les zones où est-ce que les gens vont à la salle de bain, des douches, où ils partagent des choses. On a beaucoup moins de problèmes avec les gens qui ont déjà tous les services inclus dans leur terrain de camping à eux. Donc, c'est plutôt le partage qu'on a qui est problématique. C'est pour ça qu'on prend notre temps. Fait qu'il y a personne qui a dit que ça allait pas ouvrir, mais je pense qu'il faut, c'est important qu'il y ait une adaptation de ces zones-là. Puis on va recommander que les gens qui vont aller, s'ils ont une douche ou une salle de bain à l'intérieur de leur véhicule récréatif, qu'ils utilisent plutôt leur propre service pour eux plutôt que d'utiliser les services en commun.
Pensez-vous que ça va venir bientôt, ça?
Ah, ça va venir avec le beau temps, j'imagine.
Même question pour les piscines. Les gens se disent, on comprend que... Puis d'abord, le virus et l'eau d'une piscine, là, c'est quel genre de mariage, ça?
Ben, c'est parce que avec ben, là d'abord c'est permis de se baigner dans les eaux libres, donc oui. En lac, mais c'est un peu froid pour l'instant. Le chlore va être efficace contre le virus, donc c'est correct là. Je pense que c'est une bonne protection. Et puis pour les piscines extérieures, c'est moins un problème parce qu'on peut faire rentrer les gens à l'extérieur. Les gens peuvent prendre une douche même à l'extérieur et puis ils peuvent ressortir puis ils n'utiliseront pas les salles d'habillage, les vestiaires. C'est plus comment est-ce qu'on fait pour les piscines intérieur, où est-ce que là, les espaces sont beaucoup plus restreints, les vestiaires sont partagés, donc là, il y a un niveau d'hygiène et puis de protection qui doit être plus grand, et puis ça va prendre plus de temps avant d'ouvrir les piscines intérieures que les piscines extérieures.
OK. L'autre question à plus long terme, là, parce qu'on regarde, là, puis on a très bien compris le message en disant, il faut respecter ces consignes-là, on n'a pas envie d'être obligé de confiner à nouveau, de mettre le Québec en pause. Je pense que ça, c'est assez clair dans l'esprit des gens. Quand on regarde pour les écoles en septembre, on a tous compris l'importance aussi pour les ados de retrouver un contact avec leurs amis, de pouvoir aller à l'école physiquement, là, d'être présent et pas juste avoir un lien virtuel. Et là, le message du ministère de l'Éducation est assez clair là-dessus aussi, là. Est-ce que vous pensez que c'est toujours avec le spectre d'une deuxième vague, puis de regarder tout ça, là, que c'est réaliste de penser que on va pouvoir ouvrir, exemple, les écoles secondaires, les écoles primaires, partout au Québec à l'automne, au mois d'août, là, fin août, début septembre, puis permettre aux jeunes d'être présents physiquement à l'école.
D'abord, je dois dire, vous avez tout à fait raison, et c'est fort important que les jeunes retrouvent leur milieu, qu'ils reprennent un peu leurs activités sociales en faisant attention tout le temps, là, mais c'est vraiment essentiel. Et puis, il y a des jeunes pour lesquels ça devient un milieu très très sécurisant, très, très important pour eux qui ont pas nécessairement énormément d'autres ressources, d'une part. D'autre part, ben malheureusement, tant que COVID va être en développement comme ça, et puis qu'on n'aura pas un vaccin, il va falloir qu'on prenne des précautions, puis donc il va falloir adapter le milieu scolaire pour minimiser les risques de transmission, pour pas que ça flambe. Et puis qu'à ce moment-là, il va y avoir un besoin de locaux qui vont être plus grand ou plus de locaux ou moins d'étudiants par classe. Vous pouvez y aller comme vous voulez, mais essentiellement, ça veut dire qu'on va avoir besoin de plus d'espace pour faire les mêmes cours, puis peut-être plus de personnes pour encadrer ou travailler avec les étudiants. Ça peut vouloir dire aussi d'utiliser du téléenseignement plus à temps partiel, parce qu'il y a besoin que les gens se voient, puissent discuter, puissent échanger, mais il y a peut-être une partie des choses, puis ça dépend du niveau d'études. Si on parle au primaire ou au secondaire, c'est pas tout à fait la même chose, là. Mais il y a certainement une partie qui peut être faite en enseignement à distance, mais pas tout. Comme vous l'avez mentionné, c'est un milieu de vie qui est important pour les jeunes, puis il faut le préserver. Mais il y a des choses qui vont être différentes.
Est-ce que vous pensez que tous ces jeunes-là, ados et enfants plus petits, là, avec, par exemple, ces regroupements qui sont permis, avec les camps de jour qui éventuellement vont ouvrir, puis on comprend que les groupes vont être plus restreints, mais quand même, ils vont avoir des contacts, que bref, il y a une certaine immunité qui va se développer chez les enfants pendant la période estivale?
Ben, pas beaucoup, parce non. que non, ben il va en avoir. C'est certain qu'il va y avoir des gens qui vont faire des infections. Il y en a qui en font dans la communauté maintenant, mais le nombre de personnes qui vont s'infecter par rapport aux besoins pour développer une immunité collective, ça n'a pas comme une mesure. Là. Actuellement, il y a probablement entre 5 et 10 % des gens dans la région de Montréal qui ont été en contact avec le virus. Puis en dehors de Montréal, c'est probablement 1 % ou peut-être même en bas de 1 %. Donc, pour avoir une immunité collective, on parle d'à peu près 2/3 de la population, 67, 68, 70 %. Donc, on est très loin de ça pour avoir une immunité qui protège contre la transmission, c'est à ça auquel vous vous référez. Oui. Donc, on est loin de ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont développer une immunité? Oui. Mais est-ce que ça va être assez pour l'été? Non, d'une part. D'autre part, on a des inconnus, c'est un nouveau virus, puis on ne sait pas jusqu'à quel point cette immunité-là, qui semble réelle, parce que les expériences qu'on a, l'information scientifique qu'on a, c'est qu'il y a une immunité qui se développe, mais combien de temps elle va durer, ça c'est moins certain, par exemple. Donc, est-ce que dans 6 mois ou dans 1 an, cette immunité-là va être encore très efficace? Peut-être que ça va amoindrir les symptômes, mais on a encore beaucoup de choses à connaître sur ce virus-là, malheureusement, là, mais... Donc, non, l'été sera certainement passé pour développer une immunité pour empêcher la transmission après. Par contre, si les gens vont dans ces camps-là ou les gens qui vont aller dans certaines classes maintenant, puis il y en a qui sont ouverts dans certains endroits de la province, en dehors de la grande région de Montréal qui vont ouvrir. Donc là, on va aussi apprendre, est-ce que nos méthodes sont bonnes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit adapter? Est-ce qu'il y a des pratiques qui peuvent être inspirantes? On regarde ce qui se fait en Europe, puis c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'eux autres organisent les classes, puis comment est-ce qu'ils structurent l'enseignement. Fait qu'on apprend les uns des autres comme ça.
Dernière question. Avez-vous l'impression qu'on aura vraiment une deuxième vague? Est-ce que, sans connaître l'ampleur, là, c'est inévitable que, quelque part, cet automne ou l'hiver prochain, combiné avec la grippe, on a finalement les deux, là, grippe et COVID?
C'est une chose qui est possible. En tout cas, on se prépare si jamais cette chose-là arriverait, parce qu'on sait que ça demanderait beaucoup au niveau du système de soins. Et puis, il faudrait que peut-être qu'à ce moment-là, on prenne des décisions de protéger certains milieux. Donc, on se prépare pour ça. On ne sait pas, parce que c'est un nouveau virus. Mais si on se fie aux virus dans le passé qui sont différents, là, je pense à l'influenza, qui n'est pas la même chose, mais dans le fond, il y a des symptômes respiratoires qui ressemblent passablement. Bien, quand il y a eu des nouveaux virus, il y a eu des vagues comme ça. Donc, est-ce que c'est possible? C'est certainement possible, puis on se prépare en conséquence, mais on ne peut pas être certain que cette chose-là va arriver ou comment est-ce qu'elle va arriver.
OK, j'ai vraiment une dernière question, puis elle est des auditeurs, là, mais ce sera la dernière. Est-ce que les personnes de 60 ans et plus, 70 ans et plus, tout en respectant le 2 mètres, évidemment, ont la possibilité, ont le droit finalement de participer à ces rassemblements? Y a-t-il un problème?
Bien, elles ont droit, là. Il n'y a pas personne qui n'a pas le droit.
Ça.
Mais on n'encourage pas trop ça. Honnêtement, même si moi, j'avais des grands-parents qui avaient 75 ou 80 ans, ben je me restreindrais vraiment, là. Je veux pas dire qu'ils peuvent pas avoir une vie sociale, mais pas proche, puis pas avec des enfants qui vont aller s'asseoir sur leurs genoux, puis certainement pas, parce qu'ils sont vulnérables. Il faut les protéger. Il faut faire attention. Donc, c'est un équilibre subtil, hein, mais ça reste toujours une chose auquel il va falloir faire attention tant qu'on n'aura pas un vaccin. Les gens, les aînés, les gens qui ont des maladies chroniques sévères, il va falloir qu'ils fassent attention. Donc, la recommandation, c'est bien continuer de faire attention. On a dit qu'ils devaient rester protégés. Il faut que cette chose-là soit maintenue pour leur propre santé à eux.
Merci beaucoup, Dr Massé.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Dr Richard Massé, le conseiller médical stratégique à la Direction de la santé publique du Québec.